direct de Montréal, voici le cabaret des acolytes.
Le spectacle va bientôt commencer!
On peut pas faire de magie, on peut pas les inventer, ces personnes-là.
Ça alors, pour une surprise, c'est tout une surprise. Bonjour les tout-petits!
Accueillez votre animateur pour le cabaret des acolytes, Jean-François Gélinas.
Bonsoir la gang, je vous souhaite la bienvenue à ce tout nouveau cabaret des acolytes. Le rideau s'ouvre sur la grande scène, on prit place autour de cette table, les fameux acolytes. Bonsoir la gang!
Bonsoir!
Alors, il reste deux épisodes avant la fin de l'année et on vous promet de grands thèmes. Un thème ce soir qui est féerique et on va vous amener, dans de la magie, je pense. Alors, les acolytes, je vous présente autour de la table Juan Blasco, Geneviève Proulx, Janelle Touchette. Ce soir, j'ai le goût de vous poser la question, avez-vous commencé à décorer chez vous?
Oh que oui, Jean-François. Moi, j'ai commencé à décorer, ça fait à peu près un mois. J'ai suivi les recommandations du maire Labeaume. Mes lumières extérieures sont déjà posées. Et il y en a déjà de brûlées, d'ailleurs. À l'intérieur, on a fait le sapin, puis on a fait un beau village aussi.
Alors, les acolytes, je reviens vers vous dans quelques instants, le temps de présenter le thème de ce cabaret. Pour bien du monde, la magie de Noël démarre dès le 1er novembre, dès que la citrouille se retrouve dans le compost ou dans une tarte. La magie de Noël, c'est complexe à décrire. C'est autant les rues illuminées, les multiples décorations que les odeurs de tourtière et de sapin baumier. Et plus profondément, la magie de Noël, c'est cet appel intérieur qui nous dicte de revenir aux valeurs traditionnelles, aux valeurs qui nous sont chères, le partage, la famille, l'amour et tout simplement la joie de vivre. Nous avons placé sur la table ce soir un beau centre de table, de belles bougies, quelques branches de pin avec leurs cocottes, parce que ce soir, nous faisons un cabaret autour de la magie de Noël. Alors, je me retourne vers vous, les acolytes. Christine, celle qui va nous accompagner par ses choix musicaux. Bonsoir, Christine.
Salut, Jean-François. J'ai pas manqué de choix musical pour la musique de Noël, mais j'ai décidé quand même de me concentrer pour les musiques québécoises.
Ah oui, c'est cool. OK, d'accord. Janelle, pour ta part, tu vas nous faire voyager dans les traditions de Noël.
Oui, absolument. J'adore mon Noël. J'adore le Noël d'ici, mais aussi la tradition des autres. Vous savez, je suis curieuse, donc j'ai voulu en apprendre un peu plus sur les traditions d'ailleurs.
Merci beaucoup, Janelle. On a hâte d'entendre ça. Geneviève, pour ta part, tu n'as pas dévié de ton parcours habituel. Tu nous parles de la nourriture, la bonne table dans le temps des fêtes.
Mais pourquoi pas? Et justement, Jean-François, si je vous dis ketchup aux fruits, ketchup aux tomates, attaka, à quoi vous pensez comme plat traditionnel de Noël, là, vous?
Un pâté chinois?
La tourtière.
Ça peut être accompagné de plein de choses. Dans les attaquants, il y a beaucoup de gens qui mangent de la dinde aussi avec ça, etc. Mais effectivement, bravo. Donc, ce soir, je vais un petit peu démystifier la tourte, la tourtière, le spy, le spot, pâté à la viande, etc. Alors, miam.
Bon, ben, j'ai bien hâte. Et toi, pour ta part, Juan, tu nous as concocté une petite histoire de ton cru sur la magie de Noël. Tu nous racontes une histoire que tu as donc écrite avec toute ta sensibilité, un peu de croyance dans tout ça. De quoi s'agit-il exactement?
Eh bien, en effet, Jean-François, ce soir, on fait un peu différent. C'est Noël, j'ai eu envie de vous emmener un petit peu dans un autre monde. Je me suis donc donné un autre mandat et je suis pas mal content de ma shot, donc je vais vous emmener ailleurs avec mon petit texte. J'espère bien.
Ben, j'ai bien hâte d'entendre ton histoire, Juan. Pour ma part, bien, la magie de Noël, ça débute souvent à la mi-décembre, en écoutant mon premier ciné-cadeau. Donc, je vais vous parler de ciné-cadeau. Alors, les acolytes, ça démarre. Le cabaret est ouvert sous le thème de la magie de Noël.
Le papa, le papi, le papa, le papi, le papa Noël, c'est un Québécois. Avec ses bas de laine, pis son gros parka. Le Père Noël, c'est un Québécois. Son sac de bébelle, rempli de joie. Un train pour Alain, un foulard pour Édouard, une poupée pour Mireille, des patins pour le petit Corbeil. Oh, ouais!
Ouais, Christine, qu'est-ce qu'on écoutait?
C'était le Père Noël, c'est un Québécois, la version de Boone Ding Bang. Vous connaissez sûrement cette version-là, c'est probablement la plus connue. Savez-vous qui chante dans le groupe le Boom Ding Bang?
Boom? Non.
Monsieur Boom?
En fait, c'est Stéphane Crête. Vous le connaissez, c'est le comédien qu'on a vu notamment dans une galaxie près de chez nous. Stéphane Crête jouait Brad de Spitfire, le scientifique du Romano Fafard.
Ah ouais, OK.
Je l'écoute différemment, sa chanson maintenant.
Merci beaucoup, Christine. On revient vers toi dans l'émission avec d'autres chansons et d'autres musiques. Deux mots pour vous dire que ce podcast est rendu possible grâce à Balado Québec. On les remercie. Le cabaret des acolytes est disponible chez eux, mais aussi sur Spotify, Apple, Google et la plupart des plateformes de podcast. Finalement, un mot pour vous dire que si la plateforme sur laquelle vous nous écoutez le permet, bien, allez mettre une note d'appréciation, des étoiles ou des commentaires. Alors, on poursuit ce cabaret sous le thème de la magie de Noël. Et cette fois-ci, c'est Geneviève. Geneviève, tu nous expliquais tout à l'heure que tu allais nous parler des tourtières, des cipates et tout, et tout. Tu allais démystifier le tout. Je t'offre la parole.
Ah, merci Jean-François. Ben oui, parce qu'on ne le sait pas, hein, mais ce qu'on sait, par exemple, là, c'est qu'il existe autant... En fait, il existe autant d'endroits, pardon... où est-ce qu'on consomme ces mets-là traditionnels que de recettes et que d'appellations. Alors, on va essayer de voir un petit peu comment est-ce qu'on peut distinguer le tout, certaines origines. Je vais vous parler tout d'abord du pâté à la viande, qui est pour moi mon origine de Noël quand j'étais petite et tout ça. Mm-hmm. Par contre, je ne l'avais jamais nommé le pâté à la viande. Nous, chez nous, on appelle ça une tourtière, mais c'est un pâté à la viande. J'ai appris ça. Donc, pourquoi? On peut dire que qu'est-ce qui le distingue parmi toutes ces recettes-là, c'est que c'est un petit peu moins glamour. C'est parmi ceux-là, on peut le manger à l'année. Et puis, c'est que c'est une viande qui est tachée. Hein? Alors, c'est ça aussi la particularité de
tacher, ça veut dire quoi,
à la viande.
Pas tachée, hachée.
Hachée, oh, pardon.
Oui, c'est une viande hachée. Non, c'est peut-être moi, je suis désolée.
Non, c'est la distance.
Alors, ah, c'est ça, hein? OK. Faut-tu que je m'approche comme ça?
Non, c'est bon.
OK. Excellent. Fait que parfois, les gens vont mélanger bœuf, veau, porc, mais chez moi, c'est seulement avec le porc, de la muscade, le clou de girofle et tout
ça.
Ah
oui, hein?
C'est tellement bon. Alors, et puis chez moi, on utilise aussi de la purée de pommes de terre. Il y en a d'autres qui vont râper une pomme de terre et etc. Mm-hmm. Alors, il existe plusieurs formes comme ça. Son ancêtre très éloigné au pâté à la viande serait la tourte d'origine un peu française. Okay? Donc, je vais enchaîner avec la tourte. Okay? Okay. Donc, oui, c'est ça. Donc, je vais enchaîner avec la tourtière. Je suis désolée. Alors, dans le fond, la tourtière, c'est sûr qu'on peut dire qu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean, eux considèrent que c'est une tourtière. Hein? Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est très important. Ils appellent ça comme ça. Plutôt que d'avoir de la viande hachée, ça va être des cubes. Alors, on va parler plutôt de cubes de viande ou en tout cas de morceaux de viande parce qu'encore une fois, il y a plein de recettes et je ne veux pas que, en fait, offenser aucun endroit ou région ou tradition. Alors, tout ça peut compter dans la tourtière, soit en cubes, soit en morceaux. Et là, ça varie, les amis. En fait, on peut prendre de la dinde, du poulet, du bœuf, du porc, des viandes sauvages. Vraiment, tout le monde a sa recette là-dessus. Perdrix, faisan, chevreuil, lièvre, canard, il y a comme name it, OK? Vraiment, là. Et ce qui est agréable que j'ai appris, c'est que, dans le fond, là, la tourtière, ça signifie une tourte en réalité. C'est de là mon lapsus, en fait, que j'ai fait au début de cette présentation-là, celle-ci. Et puis, qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est, dans le fond, l'ustensile dans lequel on préparait des pâtisseries justement avec les viandes ou des poissons, c'est devenu une tourtière parce qu'on disait toujours comme OK, on sert la tourte. Donc la tourte, c'est le plat en fait. Pas le plat, pardon, mais plutôt la spatule, si vous voulez, qui permet de servir la tourte en fait. Alors, on a nommé ça la tourtière, c'est là le dérivé. Donc il y a une tourtière pour servir la tourte, on appelle ça une tourtière. Ça a été comme ça.
Si ça avait été avec une louche, ça aurait été une louchière, c'est ça?
Imagine, toi. T'as-tu mangé ta louchière Christine. Avec tes otakas?
C'est ça. Donc, fait qu'en gros, tourtière, c'est un peu ça. Puis souvent, c'est des cubes aussi de pommes de terre là, dans ces recettes-là. Fait que finalement, maintenant, si on se dirige vers le fameux cipaille ou cipote, OK? Donc, ça, c'est vraiment...
C'est jamais clair, hein? C'est jamais clair c'est quand le monde le prononce.
C'est vraiment pas clair.
Effectivement. Mais la bonne nouvelle, c'est que, bien, encore une fois, les recettes peuvent varier, je rappelle, mais c'est la même chose, OK? Donc, la cipaille, c'est aussi appelé cipote, OK? Qu'est-ce qui se passe, c'est que l'origine de ça, c'est plutôt anglais, cette poisson. On est plus avec l'Angleterre, OK? Et c'est en mer qu'à l'époque, les marins se cuisinaient, dans le fond, qu'est-ce qu'on appelle un « sea », S-E-A, en anglais, « pile ». Un « sea pile ».
Ah, wow! Ah, okay. Ben voyons donc, toi. Ah ouais, je savais pas ça.
Effectivement.
Moi, je pensais qu'il y avait 6 viandes dedans.
Oui, moi aussi.
Mais, puis il y en a souvent 6 viandes. Il me semble que mon ami du Lac Saint-Jean fait un cipote avec pas mal de sortes de viande.
On va pouvoir comprendre si c'est vraiment un cipaille que votre ami fait ou une tourtière. Okay? Parce qu'oubliez pas que la tourtière, elle peut comprendre beaucoup de viande variée aussi.
Okay. Mais hachée.
Non.
Ou pas.
Non.
Haché,
c'est le pâté de viande.
C'est le pâté de viande, c'est ça.
Bon, t'as rien compris.
T'as rien compris, la Christine.
J'ai pas dû être bien clair. Dans le fond, c'est ça. Le pâté de viande, c'est la viande hachée. La tourtière, elle peut comprendre vraiment beaucoup, beaucoup de variétés. Puis justement, vu qu'on a fait un dérogé un petit peu vers la tourtière, puis tourtière, dans le fond aussi, c'est que les Français, il y avait des oiseaux qui est la tourte voyageuse. Et elle était dans des champs. Puis là, des fois, c'était bien facile de la voir. Moi, je l'ai jamais rencontrée. Je sais pas si elle était niaiseuse, mais il y en a qui l'assommaient carrément, puis ça se retrouvait justement souvent dans la tourte, comprenez?
Wow!
Okay. Donc...
c'est un peu le symbole de tarte, hein? T'es un peu tarte, t'es un peu tourte.
Oui!
Peut-être, hein?
C'est bien dit. Donc, finalement, le fameux cipaille, lui, par contre, vient vraiment d'Angleterre, sur les bateaux, puis honnêtement, la recette à l'époque n'a rien non plus à voir avec aujourd'hui, nous, au Québec, comment on peut interpréter ça. Parce que c'est sûr qu'eux autres, ils prenaient des restes de poissons, hein, ce qu'il y avait sur le bateau là, pour se nourrir. Bon, voilà. Alors, c'est comme ça que ça s'est créé un chemin. Mais ce qui est arrivé, c'est que maintenant, en Gaspésie, les gens, ils ont comme entendu, quand les marins sont débarqués, ils ont entendu « c'est sport ». Un sport. OK? Fait qu'ils ont comme entendu ça. Alors.
Parce que vous l'avez pas vu faire. Elle a même mimé le marin.
on le voyait clairement.
C'est spot!
Un spot!
Ouais, c'est spot.
Fait que justement, si on dit 6 spot, 6 étages, les amis. Donc vraiment. Il y a des pâtes au travers de tout ça. OK?
Moi, je pense que je n'ai jamais mangé alors un cipote ou un cipaille. Je pense que je n'ai jamais mangé ça.
C'est ça, parce qu'en fait, une tourtière, là, tu ne l'as pas dit parce que c'est la majorité de nos auditeurs, c'est des Québécois, mais c'est vraiment la viande à l'intérieur de 2 morceaux de pâte. C'est une tarte fermée,
une
dans le fond.
Une tarte de viande.
C'est en plein ça.
Non, mais il y a des gens qui écoutent en France qui ne sauront pas.
Oui, c'est très haut, là.
Une tourtière, de ce que je crois comprendre, c'est que c'est haut, là. C'est plus haut, c'est plus épais, alors qu'un pâté à viande, c'est plus comme une tarte traditionnelle qu'on connaît la taille.
Puis là, ce qu'on dit, c'est que le 6 pâtes, c'est vraiment 6 étages de pâtes.
Un gâteau de mariage.
Mon Dieu, c'est une lasagne de viande, quasiment.
Oui, mais là, Juanito, là, il y a des gens pour qui c'est ça la vie. Alors, je t'invite à ne pas porter de jugement.
Ah, je ne portais pas de jugement, j'ai hâte de goûter, mon Dieu.
Ah, OK. Alors, c'est ça, mais c'est ça. C'est plus de pâtes que qu'est-ce que certaines régions, certains endroits, on est habitués, dans le fond, de déguster avec notre ketchup aux tomates, nos atacas et ou notre ketchup aux fruits, hein? Alors, c'était ça que je voulais vous raconter un petit peu aujourd'hui. J'espère que, peu importe, que ce soit une tourte, une tourtière, un spy, un spot, n'imite, j'espère que vous allez, et le fameux pâté à la viande, j'espère que vous allez vous en déguster, vous en délayer, goulayer, c'est ce que je voulais dire, à Noël. Bon appétit!
Merci Geneviève, on va certainement prendre une bouchée à ta santé.
Au petit trot s'en va le cheval avec ses grelots, et le traîneau joyeusement dévale à travers les coteaux. Dans le vallon s'accroche l'hiver, mais le ciel est bleu. Ah, qu'il fait bon faire tout.
A-t-on reconnu notre chanteuse nationale?
Ah, c'était Ginette Renaud avec Promenade en traîneau. Entendez-vous dans la chanson La magie de Noël? En fait, on peut la représenter avec certains sons, dont le grelot, quoi d'autre?
Le l'harpe, peut-être, non?
L'harpe? Ouais, ah oui, peut-être l'harpe, oui.
Oui.
J'allais dire le violon, non, peut-être pas. Hein.
Un petit peu, il y avait des petits coups de violon dans cette chanson-là.
L'harmonica, en fait. Peut-être? Ça, c'est peut-être plus le jour de l'an, l'harmonica.
En fait, le triangle, souvent, on a le xylophone aussi. Ce sont des sons qui sont typiques pour les chansons de Noël. Puis on a souvent aussi le ho-ho-ho, hein, parce que le Père Noël est quand même un sujet intéressant.
Mais, oui. Ginette, moi, elle vient me chercher. Elle vient me chercher, Ginette. Je l'aime bien, Ginette.
D'ailleurs, dans cette chanson-là, dans la chanson Promenade en traîneau, le grelot est là du début à la fin, non-stop.
Ah oui!
Wow.
Je vous invite à écouter la prochaine chanson. C'est le Père Noël arrive ce soir du groupe montréalais Les Clowns du Carrousel.
J'ai vu dans la nuit passer un traîneau, et j'ai vu aussi ton grand ami. Père Noël arrive ce soir. Père Noël arrive ce soir.
Merci beaucoup, Christine. Alors, on poursuit ce cabaret autour de la magie de Noël et je me tourne cette fois-ci vers Juan, notre architecte de l'histoire. Juan, pour ton numéro ce soir au cabaret, tu as puisé dans tes expériences personnelles, tes voyages, surtout celui de l'année dernière en Israël et notamment à Jérusalem, la vallée du Jourdain, le tombeau du Christ, mais aussi dans tes aspirations et dans ce que tu souhaites à tous dans ta bonté et ta gentillesse. Tu as mixé tout ça pour en faire une mouture, pour en faire ta mouture de la magie de Noël. On t'écoute.
Alors, je prends ma voix de conteur et j'y vais. Alors, ça commence par « Il était une fois », je vous préviens. Il était une fois, à l'aube des temps, un peuple qui vivait au pied d'une montagne d'où le soleil se levait chaque matin. Ça commence bien.
Oui.
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 À l'époque, ce soleil s'appelait Salem, et ce peuple fonda finalement une ville. La ville du soleil, son dieu unique. Dans la langue de ce peuple, le mot « ville » se disait « Yérou ». Leur ville, Jérusalem. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on parle de
Jérusalem.
Bravo Jean-François.
Tu suis. C'est cool.
L'histoire raconte qu'un jour, un berger du nom d'Abraham, qui avait deux fils, se fit parler par son Dieu qui voulait le tester pour savoir où était rendu son peuple dans son évolution. Abraham, qui avait une foi aveugle en son Dieu, devait répondre à ce dernier en faisant un choix des plus difficiles. Cette histoire ne vous donnera pas les détails, mais ce qui est important de savoir, c'est qu'Abraham fit le bon choix et réussit le test. Chacun des fils d'Abraham perçut les actions de leur père d'une façon différente, et de génération en génération, les fils d'Abraham transmirent à leurs descendants leur propre perception, créant ainsi trois religions différentes, trois façons de voir les choses. Un jour, Dieu envoya un Messie à ceux qui étaient devenus Des générations après les fils d'Abraham, trois peuples distincts, chacun avec leur propre croyance. Deux d'entre eux virent l'arrivée de ce Messie comme celle d'un prophète. Le troisième peuple, lui, vit son arrivée comme celle du Fils de Dieu. D'ailleurs, les légendes de ce troisième peuple racontent qu'il était né par une nuit magique durant laquelle trois mages traversèrent l'Orient en suivant l'étoile du berger dans le ciel. Ils seraient arrivés dans une étable où s'étaient réfugiés un jeune papa, une jeune maman et leur bébé naissant. La légende se poursuit avec ce bébé qui, en réalité, si on en suit les croyances du troisième peuple, était doué d'un pouvoir magique, celui de sauver le monde, celui de sauver tous les peuples du monde de la noirceur, en apportant joie et bonheur à tous les êtres de la terre. Aujourd'hui, des milliers d'années plus tard, alors que les descendants de ces trois peuples se sont divisés, réconciliés, puis divisés à nouveau, alors que le monde vit des heures noires où l'individualisme peut aller jusqu'à tuer en temps de pandémie, on peut encore percevoir, comme à chaque anniversaire de ce sauveur, né dans une étable, les effets de sa magie sur les peuples d'Abraham. Soudain, la joie remplit les cœurs. Le partage devient une priorité. Penser aux autres, un mantra. La lumière gagne enfin sur les ténèbres. Alors, je vous le demande, mes chers acolytes, finalement, est-ce que ce n'est pas vraiment ça, la magie de Noël?
À travers les sapins verts, c'est l'hiver, c'est l'hiver, c'est l'hiver.
Wow, Christine!
On écoutait Marie-Michel Desrosiers avec la chanson « C'est l'hiver » tirée de son album « Marie-Michel Desrosiers chante les classiques de Noël ». C'est une artiste que j'affectionne beaucoup. Mm-hmm. Je suis une grande fan de « Beau dommage » et maintenant on la voit souvent avec Clémence Desrochers. Les acolytes, moi je vais vous avouer là, que à chaque année, je rêve d'un Noël blanc. Mm-hmm. Est-ce que c'est votre cas?
Ah oui,
tellement.
Oui, oui, absolument.
Il me semble qu'un Noël vert, il me semble que c'est bizarre. Hein? On en a eu quelques-uns, puis il y a toujours un drôle de sentiment.
Oui, puis c'est mélangé tout souvent avec une première neige aussi, c'est féerique, c'est la magie de Noël. Mais c'est pas comme ça partout, hein, parce que l'hiver, c'est pas... Le Noël, c'est pas toujours l'hiver partout sur la Terre.
C'est génial, hein?
C'est beau, hein?
Ça met dans l'ambiance.
Bon baiser de Phare de France de la Compagnie Créole. Bon, ils ne sont pas natifs de Montréal, mais d'Haïti, Phare de France en Haïti, d'ailleurs, Noël. C'est pas l'hiver là-bas.
Non, du
et,
tout.
mais bien apprécié des Québécois.
Mm-hmm. On poursuit ce cabaret vers Janelle. Merci beaucoup, Christine. On poursuit ce cabaret vers Janelle. La période des fêtes est autant synonyme de tradition de Noël que de réjouissance. Depuis des siècles, les Québécois répètent année après année de petits rituels. Mais pour ta part, Janelle, tu as préféré te pencher vers les rituels d'ailleurs. Donc, tu es allée voir qu'est-ce qui se passe dans d'autres pays.
Exactement, t'as raison, JF. Cette année, ça sera un Noël un peu différent, car nos habitudes, nos traditions seront un peu chamboulées, du moins pour le réveillon. Nous avons quand même la musique, le sapin, les cadeaux, les lutins aussi, mais j'ai voulu aller voir un peu ailleurs. J'ai envie de commencer par le Mexique. Donc, comme ici, le jour de Noël, c'est un jour férié et payé. Ils ont plusieurs traditions, ils en ont une trentaine. L'une d'elles consiste en groupe de villageois qui passer de porte en porte pendant 9 jours à la façon des rois mages à la recherche de Jésus. Et puis quand on arrive en quelque part, on est invité à rentrer dans quelques maisons et célébrer en brisant une piñata. Oh. Je trouvais ça...
Ah oui?
Oui.
Wow!
Et puis au Venezuela, qui est pas très loin, la fête de Noël gravite autour de la Vierge Marie. C'est pas le Père Noël, en fait, qui apporte les cadeaux, mais bien le petit Jésus qui, dans le fond, reçoit les lettres que les enfants ont envoyées. Donc, en Colombie aussi, c'est le petit bébé Jésus qui apporte les cadeaux aux enfants.
Mmh.
Okay. Je me dirige maintenant dans mon voyage au Japon. Le 25 décembre, ce n'est pas un jour férié au Japon. Seulement 1% de la population est chrétienne, mais pour ceux qui le célèbrent, ça ressemble beaucoup aux festivités d'ici, en fait, d'Amérique du Nord. Les gens chantent, évidemment en japonais, mais quand même, on décore les sapins, on a des gis. Et le Père Noël au Japon est toutefois différent. Il représente, bon, là, excusez-moi, là, mon accent québécois-japonais.
On t'écoute.
Représente le Hotei ou le Hotei Osho, soit l'un des sept dieux de la chance de ce pays. Okay. Pas pire, oui.
Oui, bravo.
L'aliment traditionnel de Noël là-bas, c'est un gâteau éponge garni de fraises et de crème fouettée. Alors, on se redirige maintenant au Sri Lanka. Les feux d'artifice commencent le 1er décembre. Ça annonce un Noël qui approche. Et puis, ça annonce l'arrivée des Portugais au 16e siècle. Le 24 décembre, pour environ les 7% de la population qui sont chrétiens, on va à la messe. Et le 25, on invite nos amis non-chrétiens, non-croyants, à célébrer avec nous au Sri Lanka. On mange du gâteau, on boit du vin et on se fait un souper traditionnel avec plein de gens autour de nous. Ça, c'est au Sri Lanka. Le prochain m'a un peu perturbé. Donc, Pays-Bas, mais c'est très, très similaire aussi en Allemagne. Donc, le 6 décembre, soit le jour de la Saint-Nicolas, les enfants attendent l'arrivée de Sinterklaas. Hein? Est-ce qu'on... Sinterklaas?
Sinterklaas.
C'est drôle.
Chaque hiver, Sinterklaas voyage par bateau depuis l'Espagne jusqu'au port d'Amsterdam, vêtu de son long manteau rouge et coiffé de sa mitre. Il se promène sur son cheval blanc et porte un sac rempli de cadeaux pour les enfants. Donc, Zwarte Piet, donc Père Fouettard ou Père Noir, est l'aide de Saint-Nicolas. Ce personnage, aujourd'hui, est controversé. Beaucoup de Néerlandais, surtout ceux d'origine africaine, le voient un peu comme une caricature de l'esclave africain.
Ah ouais.
Et les Américains, eux, sont aussi mal à l'aise avec le stéréotype que projette le Père Fouettard. L'Allemagne aussi, c'est très, comme je disais, ils ont la même coutume là-bas. Ouais.
Parce qu'il y a la peau noire?
Oui, okay. Exactement. C'est l'aide du Père Noël qui a la peau noire. Puis j'ai aussi lu, je ne l'ai pas nécessairement dit ici, mais c'est le Père Fouettard, c'est comme celui qui va faire peur aux enfants.
Ah, ouais. Oui, le Père Fouettard. Ben oui.
Ouais.
Et c'est aussi le cas à Lille, en France. Hein. Ça, c'est en plus des Pays-Bas et de l'Allemagne.
Ah oui. Oui. On se dirige maintenant en Australie. Très influencé par le Commonwealth. Ça ressemble beaucoup à l'Angleterre, aux États-Unis. Évidemment, on envoie des cartes, on échange des cadeaux, on fait des chants de Noël. Il paraît qu'à Sydney, un barbecue public a lieu avec des événements comiques impliquant le Père Noël, surfer, qui essaie de faire rigoler les touristes pendant qu'ils savourent une dinde. Un peu une caricature de tout ça. Mais ça se passe à l'été. On parlait d'un Noël vert. Là-bas, c'est carrément l'été.
Imagine-le avec une louchetière, tu sais.
La Lettonie, il paraît que la tradition de l'arbre de Noël vient de là, de la Lettonie. Selon les archives historiques, l'usage d'un conifère pour la fête de Noël remonte aux années 1510, dans la ville de Riga, la capitale de la Lettonie. Chaque jour, durant les 12 jours de festivité, les Lettons donnent un cadeau et en reçoivent. Donc ça se passe en Lettonie. Puis je termine avec la Norvège, si ce n'est pas vous allez tous l'avoir en tête là, de ce que je vais mentionner là, mais ce n'est pas le Père Noël qui distribue les cadeaux, mais plutôt Tomte, je sais, T-O-M-T-E.
Oui,
c'est ça. Un gnome portant une barbe et des vieux vêtements, ainsi qu'un chapeau rouge. C'est cette créature qui protégeait les villageois, qui demandait un bol de gruau et qui, dans le fond, qui distribue les cadeaux le soir de Noël. Voilà.
Wow. Ben, merci beaucoup, Janelle, pour ce tour du monde.
Oui.
Merci.
Douce nuit, sainte nuit, doux sommeil, pas de bruit.
Christine.
On écoutait Nana Mouskouri. Elle non plus, elle n'est pas québécoise, mais bien aimée des Québécois. Elle est née en Grèce en 1934. On dénombre 1550 chansons en plusieurs langues de Nana Mouskouri. Et les chansons de Noël, c'est beaucoup des chansons solennelles aussi, là, comme celle-ci. On n'a qu'à penser aux cantiques de Noël. Est-ce que vous en avez en tête des cantiques de Noël?
Geneviève!
Ben, moi, quand j'étais jeune, je faisais de la chorale, j'allais à la messe de minuit, je chantais. Ben oui. Oui.
Le minuit chrétien.
Ah, plus d'une fois, non. Pour vrai, c'était pas ça. C'était pas ça. Mais c'était vraiment charmant. Entre autres, la cloche de Noël, donc « Chante dans la nuit, cloche de Noël ».
Oui, oui.
Ça, on avait vraiment des belles chansons. « Bonjour ». Bonjour à l'enfant Jésus. Donc, toutes sortes de beaux petits cantiques comme ça, il y en a un paquet et j'adore ça. Donc, de bon matin, j'ai remonté le train. C'est peut-être pas un cantique, mais c'est une bonne toune de Noël.
Mais je pense que c'est un cantique. Okay. Oui, tout à fait. Il y en a quelques-uns. En avez-vous d'autres, les acolytes, un ou deux?
Ben, petit papa Noël, quand tu descendras du ciel avec tes jouets par milliers.
C'est une chanson de Noël, je ne suis pas sûre que c'est un cantique.
Ah, c'est pas la différence que vous faites, un cantique?
C'est un chant chrétien. Donc, il y a une représentation chrétienne et souvent, ce sont des chants qui datent de plusieurs décennies. Donc, par exemple, « Minuit chrétien », « Douce nuit » que Nana Mouskouri nous interprétait date de 1818. Et la plus vieille, le plus vieux cantique de Noël, c'est « Entre le bœuf et l'âne gris » qui remonte au 16e siècle.
Tellement beau! Puis il y a les petits chanteurs du Mont-Royal avec Grégory Charles qui en ont une version là, divine.
Exactement, oui.
Ben, il est né le divin enfant, ça s'en est un cantique.
Oui, c'en est un. Oui, il faut qu'il y ait une leçon divine dans la chanson.
Merci beaucoup, Christine. Pour ma part, ben, on poursuit ce cabaret. Et là, c'est mon tour. Pour ma part, je voulais parler de Ciné-Cadeau cette semaine. Ça m'a allumé. La magie de Noël, moi, ça débute avec Ciné-Cadeau.
Absolument.
Oui, il y a quelque chose, une ambiance qui vient dans la maison.
Oui.
Et l'année prochaine, saviez-vous que Ciné-Cadeau allait avoir 40 ans? J'ai été surpris de ça.
Wow.
En fait, je ne pensais pas parler d'un livre cette semaine, mais j'ai trouvé un livre qui parle de Ciné-Cadeau. Et oui, Juanito, il lève la main. C'est quoi Ciné-Cadeau? Je vais venir à c'est quoi Ciné-Cadeau. Parce que je sais qu'on a aussi un auditoire européen qui n'a aucune idée de c'est quoi Ciné-Cadeau. Mais je vais en venir parce que c'est une belle histoire. Alors, le livre que j'ai déniché, c'est « Un Noël cathodique, la magie de Ciné-Cadeau déballé ». Pouvez-vous croire que quelqu'un a écrit un livre sur Ciné-Cadeau?
Génial.
Eh bien, c'est pas seulement une personne, c'est un collectif qui est sous la direction de Stéphanie Roussel et c'est aux éditions de Ta Mère. Alors, j'en viens à l'explication de c'est quoi Ciné-Cadeau. Ciné-Cadeau, c'est une programmation spéciale faite de films, de dessins animés qui est présentée à chaque année à partir de la mi-décembre et jusqu'au jour de l'an ou à peu près. C'est comme un festival télévisuel. Durant cette période, tout au long de la journée, Télé-Québec, anciennement Radio-Québec. Ça, c'est la télévision publique québécoise, présente des dessins animés et des films et la case horaire de 18h30 est la plus populaire. Et on présente des classiques, les classiques qui reviennent d'année en année, toujours les mêmes. C'est un peu répétitif, mais c'est ça qu'on aime, c'est revoir nos classiques. Et parmi les classiques, en avez-vous autour de la table des classiques de Ciné-Cadeau que vous... Oui, Geneviève.
Astérix.
Ouais. Il y a toute la gang. Il y a toute la gang. Et je pense que le plus populaire, c'est les 12 travaux d'Astérix. Hein?
J'adore.
Et le plus plate, chez les Bretons. Hein?
Chez les Bretons.
Oui, on s'endort.
Il est un peu plate. Janelle, tu avais levé la main?
Mais clairement, la guerre des tucs, là.
Oui, ah, c'est oui, ça. C'est vrai. Il n'y a pas juste clairement. Des dessins animés, il y a des films aussi. Puis il y a Ciné-Cadeau, puis il y a le cinéma des fêtes qui est oui. tout de suite après. Mais des fois, on mélange un peu les deux, là. Hein. C'est Ciné-Cadeau et le cinéma des fêtes. Mais oui, effectivement, il y a la guerre des tucs, puis il y a Bac et bottine aussi, moi qui est un ouais. classique pour moi.
Mon Dieu, que ça me faisait peur, ça, quand j'étais jeune.
Ça te faisait peur? Ouais. Bac et bottine? Ah. Tu voulais pas oui. être tout seul, sans oui, mère et ça. Sans père?
Je rappelle que Janelle aussi n'est pas un amateur de films d'horreur, c'est clair. Écoutez le podcast de l'Halloween, là, les auditeurs, et vous allez comprendre de quoi je parle.
Exact.
C'est son max, là, Bac et bottine.
En fait,
la moufette arrive, là.
Il y a plein de... Ben, il y a les Lucky Luke, les Tintins, et Tintin oui. et le Temple du Soleil, le plus populaire. En fait, dans cet ouvrage, je trouve qu'il intellectualise le phénomène Ciné-Cadeau. C'est parce que réellement, c'est un réel phénomène. Tu sais, quand on y pense, là, on est des adultes de 40 ans qui parlons de Ciné-Cadeau. Il y a quand même quelque chose de weird un peu.
On dirait que ça nous a marqué, vraiment.
Et ça nous marque encore. Oui, ça nous marque encore.
Moi, je ne fais pas juste en parler. Là. Je l'écoute de temps en temps. Hein.
Ben exact, c'est ça. On l'écoute encore. Ce qui m'a marqué le plus dans le livre, c'est un collectif. Alors, c'est plusieurs essais sur Ciné-Cadeau. Et un des essais porte, un essai c'est de Sandrine Galland, porte sur l'absence quasi généralisée des femmes dans les films et dans les dessins animés de la programmation de Ciné-Cadeau.
C'est vrai, hein?
Alors, quand on y pense, il y a très, très peu de femmes. On a nommé Bac et bottine, il y a une héroïne là-dedans, mais il y a elle, mais il y a Astérix et Cléopâtre. Mais quand on regarde Cléopâtre, puis là, je vais vous citer le livre, Cléopâtre a très peu à faire dans l'ensemble de l'intrigue, présente au début et à la toute fin, ainsi que dans la mythique scène du bain, elle n'occupe pas vraiment un rôle d'action. Cléopâtre est constamment ramenée à sa beauté. Alors, je trouvais ça intéressant comme concept. Geneviève.
C'est vrai, mais c'est la bosse de César, par exemple.
Mm-hmm. Et oui, comme dans
c'est le... C'est elle qui mène.
Exactement.
Et si je me souviens bien, à la fin, si tout se déroule comme il faut, c'est grâce à Cléopâtre.
Oui. Oui,
j'amène une autre version.
On va écrire, nous autres aussi, Christine, notre petit bout là, dans cet ouvrage-là.
Vous souvenez-vous que Nathalie Simard faisait des animations entre les dessins animés et les films en soirée?
Pas
non?
Moi.
Ça vous dit rien?
Non.
Je vais vous faire écouter quelque chose. Écoutez à l'instant.
Eh oui, c'est déjà terminé. Amusez-vous bien et à demain.
C'est le temps de l'hiver, c'est le temps
ça,
de
ça, ça vous dit rien?
Ah oui.
Et toute la semaine, c'est le temps des cadeaux.
Bon, alors, je vous souhaite un bon temps des fêtes, un bon Ciné-Cadeau, tout le monde. La programmation est sortie, vous pouvez aller la consulter et aller trouver où, à quelle case horaire est placée cette année Astérix, les 12 travaux d'Astérix. Le livre s'appelle « Un Noël cathodique ». Et d'ailleurs, dans le livre, là, j'ai oublié de mentionner, mais dans le livre, ils ont la programmation de toutes les saisons depuis 1981. Donc, en annexe, ils mettent toute la programmation. C'est intéressant. Il y a tout le lexique de tous les films et toutes les bandes dessinées qu'ils ont passées à l'antenne. Alors, « Un Noël cathodique, la magie de Ciné-Cadeau déballée » sous la direction de Stéphanie Roussel aux éditions de Ta Mère.
Chez ma grand-mère, c'était mon père qui se déguisait en Père Noël pour faire à croire que les cadeaux, ça venait pas tout de du puits frère. 23 décembre, joyeux Noël, Monsieur Côté, salut Ticu, on se reverra le 7 janvier.
Dans nos recherches cette semaine, dans mes recherches cette semaine, je me demandais comment on pouvait égayer la magie de Noël un peu plus en ces temps de COVID. On est tous un peu isolés chez nous. Il n'y a pas beaucoup d'activités à faire. Puis, il y a quelqu'un qui a lancé une idée géniale que moi, j'ai jamais fait ça, mais on peut prendre notre char, notre voiture, puis aller faire des tours dans le quartier, juste aller voir les maisons illuminées, juste aller voir les quartiers, puis se promener avec notre char. Puis, c'est tout. Puis tout simplement, puis je trouvais ça super intéressant. Tu pars une soirée, puis tu dis, ben OK, on va faire un tour de char, puis on va aller.
On va voir. Oui. Les décorations, oui. Tu sais, les lumières. C'est ça, la soirée, c'est encore mieux. Mais moi, il y a ces trucs-là, des fois, j'aime ça les faire, même hors Noël. Alors, imaginez avec justement les lumières, la magie de Noël comme ça. Vraiment incroyable.
Vraiment, hein?
Oui.
Alors voilà, j'espère qu'on vous aura fait voyager autour du thème de la magie de Noël. Si vous avez aimé le cabaret, n'hésitez pas à ajouter quelques commentaires sur les différentes plateformes, Spotify, Apple, Google ou toute autre plateforme sur laquelle vous nous écoutez. Alors visitez également notre page Facebook, on vous aime et aimez-nous, facebook.com/lecabaretdesacolytes. Alors on fait un petit tour de table avant de nous quitter. Juanito, tu veux dire quelque chose?
Alors oui, j'aimerais juste rappeler aux auditeurs que la magie de Noël, c'est vraiment le résultat de nos actions altruistes envers les autres.
Mmh. Oh, t'es beau!
C'est beau!
Et Geneviève, toi, un petit mot avant de partir.
Pourquoi pas un petit « Les anges dans nos campagnes », là, tapez-vous ça là, dans le temps des fêtes. C'est un autre beau cantique que je ne sais pas comment ça se fait qu'on n'avait pas pensé parler avant.
Christine!
Ben, en fait, la musique, hein, ça vient nous chercher dans le cœur, puis il faut continuer à chanter, il faut continuer à s'amuser.
Janelle?
Et moi, je vous invite, chers auditeurs, chers acolytes, à ne pas manquer notre dernière émission de l'année la semaine prochaine où nous avons fait une pige entre nous et nous allons offrir une chronique, un segment à la personne secrète, en fait. On ne sait pas encore qui a pigé qui.
Non, on ne sait pas.
Donc, exact, on ne sait pas. Donc, on doit préparer notre chronique et la dédier à notre pige secrète. Donc, j'ai hâte d'entendre ça. C'est tout secret, chacun de son côté.
Oui, c'est un bon concept, hein?
Très bon concept, très bon concept.
On se demande c'est qui a trouvé le concept. Hein?
Bonne idée, Jean-François, c'est ça.
Mais tu l'as bien résumé, Jeannette. J'aime ça. Alors, merci beaucoup. Ce podcast est une production Fort Talent. Ont participé à cet épisode Geneviève Proulx, Christine Gélina, Janelle Touchette et Juan Blasco. Mon nom est Jean-François Gélina et on se laisse la gang sur cette réflexion. Il y a 4 étapes dans la vie d'un homme. Celle où l'on croit au Père Noël, celle où on ne croit plus au Père Noël, celle où on est le Père Noël et celle où on a l'air d'un Père Noël. Salut, bonne semaine tout le monde!